Léa Salamé, votre invitée ce matin est militante écologique, fondatrice de l'association Bloom, qui lutte pour la protection des écosystèmes marins, lauréate du prix Goldman, plus haute distinction internationale dans le domaine de l'environnement.
Et bonjour à vous Claire Nouvian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors je vais vous faire une petite revue de presse avant l'heure, avant celle de Claude Askolovitch tout à l'heure. En une de Libération, un glacier qui fond et ce titre, maintenant ou jamais. En une du Parisien, réchauffement climatique, la France plus touchée que jamais. En une de l'Humanité, l'urgence face au péril. Claire Nouvian, ça fait combien de une de journaux comme celle-ci depuis 10 ans et rien ne change ou si peu?
Eh bien, vous savez, regardez le dernier rapport du GIEC qui est sorti dans la nuit. Il parle de l'agrégation de 6 000 études de plus qui nous disent on va dans le mur, c'est quantifié. Alors maintenant, on affine nos calculs. On peut vous dire comment on va dans le mur et à quelle vitesse. Et on nous dit, par exemple, l'accord de Paris nous disait qu'il fallait atteindre maximum 1,5 degré d'augmentation par rapport au niveau pré-industriel avant la fin de ce siècle, c'est-à-dire avant 2100. Et là, on nous dit... Atteindre 1,5, il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre de 45% par rapport au niveau de 2010 d'ici 2030. C'est-à-dire qu'en gros, il faut tout changer. Et alors, ils nous disent, il faut des changements sans précédent. Alors, le rapport nous dit aussi... Les changements sont possibles, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on sait quoi faire.
Il y a une note d'espoir à noter parce que le GIEC est rarement optimiste ou en tout cas dans l'espoir. En général, c'est toujours alarmant, glaçant, terrifiant. Là, il y a une petite note d'espoir en disant oui, c'est possible.
Oui, c'est possible. En fait, l'espoir, il est toujours, c'est le même sur tous les sujets, que ce soit la transition agricole, la transition vers un monde plus solidaire, etc. Ça s'appelle l'action. L'espoir, il est très simple, c'est l'action. Donc on nous demande en fait de changements sans précédent. C'est-à-dire que, en fait, simplement investir dans les énergies renouvelables, ça ne va pas suffire. Il faut décarboner massivement nos économies. Donc il faut changer nos modes de production et de consommation. C'est-à-dire qu'il faut changer notre logiciel de pensée et notre logiciel politique.
Alors, pour reprendre les choses concrètement, il faut réduire donc, le GIEC, c'est la conclusion du rapport du GIEC de cette nuit, de 45% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, donc d'ici 12 ans. Donc c'est demain.
C'est demain. C'est aujourd'hui.
D'ici demain, il faut que la planète réduise de quasiment la moitié ses émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, quand on lit, je vous écoute, décarboner notre mode de production. Décarboner notre mode de production, ça veut dire utiliser moins de charbon et moins de pétrole, en clair,
d'énergie fossile.
Pour vivre, pour se réchauffer, pour faire marcher les voitures, etc. Comment on fait ?
Ah ben, ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une flotte d'avions qui est en voie de doubler. Vous avez vu, il n'y a pas si longtemps, on voit que les Français se ruent sur les pick-up, ces nouveaux engins monstrueux. En fait, on n'a pas besoin d'avoir un pick-up pour se déplacer. Donc on voit bien que nos modes de production et nos modes de pensée ne sont pas du tout encore adaptés. On voit bien qu'aujourd'hui, les systèmes, vous avez, j'espère, reçu déjà Julia Cagé sur le prix de la démocratie, hein, son livre, où elle nous montre qu'en gros, les systèmes de financement qui portent aujourd'hui au pouvoir les hommes politiques sont les systèmes de financement du monde d'hier. Donc ils n'ont pas le logiciel qui permet aujourd'hui en fait d'amener au pouvoir des individus qui vont dire nous en fait la catastrophe qui est là, qui est annoncée, qui est réelle, hein, parce que nous on vit dans un confort qui est juste obscène par rapport au reste du monde. Mais les migrants, les 250 millions de migrants qui vont se retrouver sur les routes d'ici 2050. Dans les scénarios actuels, parce que les zones inondables sont très très fréquentes, pour eux c'est déjà la catastrophe. Alors en fait, il y a un impératif collectif, c'est de croire à la catastrophe. C'est pour ça que le catastrophisme éclairé prend toute sa place aujourd'hui. On a besoin de commencer à croire à la catastrophe, parce que là en fait, on y est là.
Oui.
Là c'est pas le moment de rouvrir les voies de Seine aux voitures, comme il en est question. Il y a des gens qui veulent remettre des voitures dans Paris. Enfin, Paris, là comme la ville où on a signé le seul accord contraignant historique en disant attention. Si on n'est pas en dessous de 2 degrés d'ici, en effet, la fin du siècle, 2 degrés, c'est déjà des changements monstrueux. Et on perd des écosystèmes. Mmh. On perd les services écosystémiques. Et nous, sans les animaux, sans la nature, on ne s'en sort pas.
Il y en avait un qui représentait ça, qui incarnait cela au gouvernement. Il s'appelle Nicolas Hulot. Il a voulu, par sa démission, créer un électrochoc, une prise de conscience violente. Est-ce que vous pensez qu'il y est parvenu? Ou 6 semaines après sa démission, au fond, rien n'a vraiment changé?
Eh ben oui, puisque c'était à votre micro et je sais, les gens m'en parlent encore. Parce que ce que Nicolas Hulot a, c'est qu'il a cette sincérité qui s'est exprimée dans ce studio. En fait, c'était bouleversant comme message parce que on peut dire, moi j'ai jamais compris pourquoi il avait rejoint l'équipe Macron. Ça reste pour moi un mystère absolument entier.
Lui, il a défendu son choix et il a pas voulu taper sur l'équipe Macron.
Oui, je pense qu'il était bien trop gentil. Enfin, moi, ça c'est un problème qui m'enlève.
Ça c'est bien tout à fait personnel.
Mais c'est un truc relationnel humain. Ça n'a rien à voir avec le bilan. Le bilan, moi, ce que je regarde, ça fait longtemps que je suis avec des politiques. Je regarde les actes. Qu'est-ce qu'ils votent? Parce que niveau discours, Macron s'est formé formidable. Nous, on aimerait bien que Sylvain Faure, qui écrit les discours de Macron, se mette au service, en fait, d'une vraie cause citoyenne, vous voyez, parce que ça ferait des miens.
En fait, c'est ça que vous lui demandez. Vous lui demandez, il a gagné le prix de champion de la Terre, le président de la République.
Quelle farce.
Oui, non, mais d'accord. Mais parlons concrètement, au-delà de la polémique, il a gagné le prix de champion de la Terre à New York. Vous lui demandez, au fond, de prendre la tête véritablement des pays défendant l'écologie, c'est ça.
Mais il ne peut pas le faire. Positive. C'est impossible, en fait. Pour Macron, c'est impossible. Il a été porté au pouvoir par des gens qui ont financé sa campagne, qui sont ceux du monde de la finance, du monde d'hier, des industriels. Vous voyez, c'est ce monde du MEDEF. Vous avez vu ce que le MEDEF et l'équivalent Business Europe fait au niveau européen ? Ils militent pour que, en fait, l'Europe ait des ambitions climatiques les plus basses possibles, les plus moins-disantes possibles. Donc c'est ça la réalité du business. Vous voyez, après on peut dire ouais, mais attention, vous êtes des oiseaux de malheur. Mais nous, on
regarde, c'est pas des oiseaux de malheur. C'est la réalité. Elle est aussi de composer. C'est ce que vous expliquerez, Emmanuel Macron. C'est la politique des petits pas, ça marche. On a fermé Notre-Dame-des-Landes. Il vous dirait qu'ils ont interdit les hydrocarbures, l'exploitation des hydrocarbures. Qu'ils ont fait des choses. Que c'est peut-être pas que Rome ne se fait pas en un jour et qu'il faut composer avec les impératifs économiques. Vous l'entendez, cette phrase ?
Mais bien sûr qu'on l'entend. Puis nous, vous savez, on a gagné contre l'interdiction du chalutage profond parce qu'on a travaillé avec la flotte d'Intermarché. Vous voyez, donc on est capable de dire qu'il fallait interdire le chalutage profond au-dessous de 600 mètres en réalité. Il y avait eu un espace de compromis politique. Ça n'a pu être que 800 mètres. Ce n'était pas suffisant dans l'absolu. Mais on sait faire de la réelle politique, bien entendu. Mais entre dire ça, et en effet, en raison les discours, et faire le bilan déjà de un an de Macronie, on voit bien qu'on n'y est pas du tout. Vous voyez, on est quand même dans des systèmes globaux qui continuent à investir dans des énergies fossiles. On continue à accompagner en fait le monde d'hier. C'est vraiment un changement radical qu'il faut maintenant, mais profond. Et attention, les gens disent, mais qu'est-ce que vous voulez détruire l'économie ? Mais pas du tout. En fait, ça a été aussi quantifié qu'on peut créer en fait une vraie croissance verte et créer des emplois en changeant notre monde d'un point de vue économique et industriel.
En quoi l'océan, dont vous êtes la grande défenseuse, vous qui avez réussi donc à obtenir l'interdiction par l'Union européenne de du chalutage en haute mer à moins de 800 mètres, en quoi l'océan est notre plus grande alliée dans l'absorption de la chaleur et en même temps la première victime ?
Alors l'océan, c'est simple, il faudrait maintenant qu'on y pense chaque fois en se disant l'océan, c'est une respiration sur deux. Voilà. C'est grâce à l'océan qu'on respire un coup sur deux. C'est 50% de la production d'oxygène et c'est la moitié de l'absorption des émissions de carbone. Donc sans l'océan, on perd la possibilité de réguler le climat. Point. Secondo, évidemment, il y a des tas de micro-effets qui sont en fait des effets majeurs, comme évidemment le niveau de salinité qui va donc permettre la formation de squelettes calcaires. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne permet pas de réduire les émissions des gaz à effet de serre, on perd tous les récifs coralliens au niveau mondial. Ça, c'est quantifié, c'est d'ailleurs dans le rapport du GIEC. On voit qu'on est aussi le régulateur du climat par le biais, par exemple, des courants. Nous, le Gulf Stream, c'est ça qui fait qu'on a des hivers beaucoup plus doux en Europe que aux mêmes latitudes ailleurs. Donc ouais, on est dans cette grande machine. C'est l'océan qui permet évidemment de nourrir la population, etc.
Et pour ça, vous avez lancé... Non, il faut s'arrêter parce que c'est fini. Mais vous lancez aujourd'hui, je crois, c'est ça, une pétition contre la pêche électrique ? C'est
oui,
votre autre combat ?
Oui, parce qu'en fait, voilà, mais typiquement encore un endroit où Macron a annoncé qu'il était contre la pêche électrique, qui se dit bonne pour le climat, ce qui est un mensonge, tout le monde le sait. Mais rien n'est fait, les actes ne sont pas là. Donc on a une pétition pour interpeller Emmanuel Macron pour vraiment se défendre l'interdiction de la pêche électrique en
Merci,
Europe.
Merci Claire Nouvian et belle journée à vous.
Merci.
Merci Léa, à tout à l'heure.